Et avant d'ouvrir notre Bible et d'entendre ce texte que je vous propose pour aujourd'hui, je vous invite à prier. Seigneur, nous ouvrons la Bible, ce livre à travers lequel les hommes et les femmes ont exprimé leur foi. Fais que, à la lecture de ces quelques lignes, nos existences puissent être transformées. Et par ton esprit, viens éclairer notre lecture et notre prière. Amen. Et pour aujourd'hui, donc, le choix était assez compliqué. Mais j'ai ouvert ce culte en vous souhaitant confiance, audace et insouciance. Mais cette insouciance, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de l'indifférence, c'est au contraire la confiance complète. Nous pouvons en effet avoir une certaine insouciance et faire confiance à Dieu. C'est cette insouciance-là que j'aime et à laquelle je pense nous sommes appelés afin de pouvoir appréhender notre quotidien certainement de manière plus juste, plus vraie. Et j'ai voulu mettre ce culte sous un signe, finalement, sous le signe de l'humour. Car après tout, si aujourd'hui nous ne sommes plus capables de sourire ou de rire, eh bien, alors, ils ont gagné. Et je pense que le combat peut se mener aussi à travers l'humour. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas la franche rigolade, je suis d'accord. Et puis, l'humour n'empêche pas la peine, l'affliction, le deuil. Mais l'humour, je pense, est un moteur essentiel de l'homme. Et lorsqu'il n'y a plus d'humour, eh bien, il n'y a plus de vie. Alors, vous me direz, c'est pas simple de trouver de l'humour dans la Bible. Eh bien, moi, je pense qu'en réalité, si. Alors, je voudrais partager avec vous cela. Et pour illustrer, mais je ferai référence à beaucoup d'autres textes, pour illustrer un peu cela, cette lecture sous le signe de l'humour, parfois de l'ironie, cette lecture qui en fait renouvelle aussi et nous adresse un message à mon avis essentiel, eh bien j'ai choisi un texte bien connu, le chapitre 2 de la Genèse, le chapitre 3, excusez-moi, de la Genèse. Vous savez, l'histoire du jardin d'Éden. Et j'ai voulu, sous ce signe, en faire une lecture quelque peu nouvelle, mais qui, à mon avis, résonne fort aujourd'hui. Alors, je vous relis tout de même le texte. « Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et bien plaisant pour la vue. Qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit son fruit et le mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne, tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » À la femme, il dit, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari, et lui, il te dominera. » À l'homme, il dit, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors bien sûr, nous sommes tous choqués, éprouvés, par ce qui vient de se passer ces derniers jours à Paris et en région parisienne. Bien sûr que nous nous associons à la peine et au deuil des familles aujourd'hui qui probablement n'ont pas du tout le cœur à rire. Et je ne voudrais pas présenter cette prédication sous le signe de l'humour en gommant cet aspect-là. Mais je pense, qu'est-ce que serait notre vie, notre monde, sans caricature, sans l'humour juif, sans tout cela, finalement, qui reste, y compris lorsqu'on lit certains témoignages dans les camps de concentration, on voit qu'il y avait encore quelques personnes pour faire des blagues juives. Alors, aujourd'hui, en effet, nous pouvons insister là-dessus et dire que le rire, le sourire, peut être aussi une arme. Une arme, et puis on l'a vu, que c'était aussi quelque chose qui était combattu. Alors gardons notre rire et notre sourire, peut-être nous pouvons le décaler de quelques jours. Et j'ai voulu aussi, en approfondissant cela, je me suis aperçue qu'en réalité, lorsque l'on lit la Bible avec cette lorgnette, en quelque sorte, cette clé de lecture, celle de l'humour, parfois un peu grinçant, parfois un peu ironique, eh bien, en réalité, on trouve un message, un vrai message, qui s'oppose en réalité à tous les fondamentalismes. Et la Bible, c'est cela. C'est cela, en fait, cette écriture que nous avons à interpréter, mais que trop souvent, on nous a prémarché. Et peut-être qu'on ne l'a jamais fait, parce que humour et religion, on le sait bien, ça ne fait pas forcément bon ménage. Parce que, justement, cette ironie nous met à distance avec les textes et nous permet de voir un peu plus loin. L'ironie, l'humour nous permet aussi d'avoir une certaine distance par rapport à notre existence et que finalement, parfois, un dessin, nous le savons, peut dire beaucoup plus de choses que toute une prédication. Alors malheureusement, je ne sais pas dessiner, alors il va falloir que vous m'écoutiez. Mais bon, alors... L'humour, évidemment, c'est pas très simple pour les religions. La foi chrétienne, en réalité, je parle surtout de nous parce que c'est avant tout la foi chrétienne que je connais, peut-elle induire un rapport qui ne conduise pas justement au fanatisme? Parce que des fanatiques chrétiens, il y en a eu, il y en aura peut-être encore. Mais en réalité, le rire et l'humour sont des garants contre tout cela. Mais l'enjeu aussi, en dehors de cet enjeu plus sociologique, de la sociologie des religions, est un enjeu profondément christologique. Faut-il nécessairement, et je pose la question, pour préserver la divinité du Christ et le sérieux de son message, lui dénier le droit d'avoir ri ou simplement même souri? Alors certes, oui, dans la Bible, on ne nous raconte pas que Jésus rit, ni même qu'il sourit. On nous raconte qu'il pleure, lorsque Lazare, son ami, est mort, il est devant le tombeau et il pleure. Mais on ne nous dit pas qu'il rit et qu'il sourit. Pourtant, si vous faites un peu attention, Jésus n'est pas triste, jamais. Il est même un peu glouton et d'ailleurs ça lui est reproché. Donc finalement, il mange, il boit, il s'invite à la table de tout le monde et en quelque sorte, il apporte et il nous promet aussi la joie. Jésus qui, comme premier signe dans l'évangile de Jean, nous propose un signe, un miracle quelque peu étonnant. Vous savez, Jésus, premier signe, à Cana, en Galilée, lors de noces où il était invité. Et après tout, si on l'invite, c'est qu'il devait bien être un bon convive, un peu joyeux. Donc, Jésus, qui est invité, va changer l'eau en vin. C'est quelque chose qui m'a toujours étonnée. J'ai d'ailleurs prêché plusieurs fois là-dessus. Quel est l'intérêt de ce miracle? Changer de l'eau en vin à la fin d'une noce, d'un mariage, où finalement, tout le monde est déjà ivre. Eh bien, en réalité, lisez-le avec un peu d'ironie, est-ce qu'on ne se moque pas de nous? On se moque un peu de nous, du lecteur et même des disciples, puisqu'on nous dit à la fin, Jésus manifesta sa gloire et les disciples mirent sa foi en lui. Alors relisez l'épisode, c'est plein de quiproquos, etc., etc. En fait, les disciples, ils croient en lui alors qu'ils n'ont rien vu. Si vous lisez, en fait, c'est complètement incompréhensible. Et puis, certes, Jésus a fait des choses essentielles, des guérisons, même à travers ses discours, son message. Mais est-ce que c'est vraiment très glorieux de changer de l'eau en vin? Dans notre monde, même à nous, à la fin d'une noce, on nous dirait que c'est tout à fait éthiquement incorrect. Eh bien, au lieu de voir cela comme ça, cette lecture sous le signe un peu de l'humour, tout du moins de l'ironie, et tout au long de l'évangile de Jean d'ailleurs, il y a beaucoup d'ironie, nous amène eh bien, à voir le message qui est caché là-dessous. Et le message, évidemment, caché sous cette histoire des noces de Cana, eh bien, c'est le Christ, en quelque sorte, qui nous est présenté comme le nouveau, le Messie. Il est capable de changer l'eau de l'ancien monde qui servait aux purifications en vin du nouveau, de cette nouvelle alliance, donc le vin nécessaire à la joie et à l'espérance. Ainsi, ce premier signe, si on le lit avec un peu d'ironie, eh bien, ce premier signe nous promet la joie. Et cette joie, eh bien, ce n'est pas rien. Cette joie, elle va bien au-delà, et vous le savez bien. Je veux dire, finalement, les évangiles, ça se termine avant la résurrection par la croix. Donc, on voit bien que le chemin du Christ n'est pas un chemin toujours joyeux, mais pourtant, la joie nous est promise. Même au cœur de la souffrance, au cœur de la difficulté, la joie avec l'avenir du Christ nous est promise. Alors, on voit bien que dans la Bible, il ne s'agit pas non plus d'éclats de rire continuels. Je dirais plus que c'est par petites touches que, particulièrement dans l'Ancien Testament, on peut voir en quelque sorte des moqueries. Bon, par exemple, dans le premier chapitre de la Genèse, vous savez, eh bien, ces dieux qui sont dans tout l'Orient ancien, que ce soit la lune, le soleil, tout le monde les vénère, ils sont rangés, on ne les nomme même pas, ils arrivent le quatrième jour, là, après tout le reste, et on dit l'astre dans le firmament, là, ils sont au milieu de tout, et finalement, en quelque sorte, à travers ce texte, eh bien, on se moque des dieux qui sont vénérés par les autres et de ceux qui vénèrent non pas le Créateur, mais les créatures. Plein de choses, vous savez, dans la Bible, il y a un passage succulent, mais il est tellement long à lire que je ne l'ai pas choisi, dans le livre des Nombres, au chapitre 22 et la suite, où finalement, c'est un âne, plutôt une ânesse, qui va mettre en déroute tous les ennemis de l'Éternel. En fait, c'est complètement... Du coup, les autres sont rangés de manière tout à fait ridicule. Le prophète Élie, qui tout seul va affronter 450, et même tuer, c'est beaucoup moins glorieux, 450 autres prophètes, comme si c'était possible. Presque, ça fait penser à nos films actuels où on voit un seul homme battre toute une armée. Mais finalement, il y a de l'humour et de l'ironie derrière tout ça. Et puis, il y a ce fameux livre, lisez-le, vous verrez, c'est succulent, le petit livre de Jonas. Jonas qui est tellement comme nous, ce petit bonhomme qui refuse d'aller là où Dieu l'envoie, qui a peur, enfin, tout ça est plein, en réalité, d'humour et d'ironie. Il est un peu ridicule, Jonas, mais il est un peu comme nous, parce que l'humour et l'ironie, c'est aussi de l'autodérision, en quelque sorte. Et ça nous permet aussi de nous regarder et de nous dire que finalement, nous ne sommes pas si terribles que ça, enfin si terribles, si bons que ça et si bien que ça. Cela nous permet de nous remettre en question. Et puis, il y a ce rire si célèbre. D'ailleurs, c'est étonnant parce que les deux ont ri, mais on ne se souvient en général que du rire de Sarah. Cette femme de 90 ans qui apprend par des messagers qu'elle va être enceinte. Évidemment, on peut comprendre sa réaction. Elle rit. Un rire, à mon avis, pas très positif. Plutôt un rire de doute, un sarcasme. Mais elle rit quand même. Et finalement, ce rire qu'elle a, et d'ailleurs que son époux, Abraham, aura aussi, eh bien, ce rire, nous en sommes tous les héritiers. Parce que leur fils, ils vont l'appeler Isaac, c'est-à-dire rire. Eh bien, le fils d'Abraham, et nous nous réclamons d'Abraham, s'appelle rire. Nous sommes donc tous des enfants de ce rire-là. Donc, essayons de temps en temps de lire la Bible autrement, avec ces quelques, comment dire, ces lunettes, ces nouvelles lunettes qui ne sont pas des théologiques, dogmatiques, qui ne sont pas les lectures que nous avons eues pendant des siècles et des siècles pour renouveler, donner de la fraîcheur au texte. Alors, c'est ce que je voudrais essayer de faire assez rapidement, trop rapidement probablement, mais avec ce passage de la Genèse. Alors, je ne vais pas tout reprendre, je vais m'intéresser à l'attitude des trois protagonistes, c'est-à-dire le serpent, la femme et l'homme. Déjà, le serpent. Le serpent, vous savez, c'est l'indispensable. Dans toutes les comédies, que ce soit de Molière à nos jours, eh bien, on trouve ce serpent. Ce serpent, c'est le flatteur, c'est le persifleur, c'est celui qui flatte l'autre afin de l'amener là où il veut qu'il soit. Et l'autre, évidemment, qui est un peu bêta, il y a en l'occurrence, c'est la femme et l'homme, qui est un peu bêta, bah, l'écoute, se laisse embobiner. Le flatteur, vous savez, un peu comme Yves Montand quand il réveille Louis de Funès, en disant « Il est l'or, monseigneur !» Enfin, voilà. Et puis, tout au long, d'ailleurs, du film, il le caresse dans le sens du poil. Eh bien, le serpent, c'est cela. C'est le flatteur qu'on trouve dans toutes les comédies, l'élément indispensable. Il raconte et il sait, et il sait ce qu'il veut. Il veut amener la femme à manger le fruit, qui n'est pas une pomme. Mais le serpent se trompe. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que quand on voit un peu l'ironie de la chose, on peut voir aussi que le serpent se trompe. Il dit à la femme, « Vous voulez être comme des dieux. » Et en fait, le serpent a une vieille image, une image ancienne de ce que sont les dieux, ces dieux du Proche-Orient ancien, ces dieux qui sont brutaux, ces dieux qui sont cruels, ces dieux qui veulent soumettre l'homme. Vous savez, au Louvre, on voit de nombreuses stèles, on voit les dieux enfermer les hommes dans leurs filets. Ces dieux qui veulent soumettre les hommes. Il a cette image-là des dieux. Il pense que la connaissance du bien et du mal, eh bien, si Dieu veut la garder, c'est en réalité parce qu'il veut asseoir son pouvoir là-dessus. Mais le serpent n'a rien compris, parce que dès le départ, Dieu crée le monde par bonté, par amour pour l'homme. Et je dirais même que la limite qu'il place au centre du jardin, cette limite, cet interdit, eh bien, c'est un interdit absolument nécessaire, indispensable, parce que sans interdit, eh bien, c'est la toute-puissance qui peut éclater. Eh bien oui, il nous faut des interdits, il nous faut des limites. Et à mon avis, cela, nous pouvons l'entendre aussi aujourd'hui. Parce que sans limite, c'est la toute-puissance qui dirige tout. Et en réalité, Dieu ne veut pas ça pour l'homme. Mais le serpent ne comprend pas ça, et puis alors la femme et l'homme encore moins. Et en réalité, eh bien, cette limite, ils vont la transgresser. Vous me direz que c'était aussi pour ça, les limites. Peut-être le fallait-il, mais ça, c'est autre chose. En fait, l'homme et la femme vont transgresser la limite. Cette limite qui a été mise là, non pas pour que Dieu assoie son pouvoir, mais au contraire, pour que nous puissions vivre les uns avec les autres. Ainsi, le serpent trompe la femme, et en réalité, cette tromperie nous révèle que, eh bien, il se trompe surtout sur l'image qu'il a de Dieu. Et cette tromperie sur l'image que l'on peut avoir de Dieu, c'est quelque chose de tellement actuel. Ce Dieu, quel est-il? Quel est le Dieu que nous prêchons? Alors nous prêchons un Dieu d'amour, parfois cela veut dire énormément, et parfois peut-être nous nous trompons parce que nous projetons nos envies, nos idées sur Dieu, eh bien, en réalité, le récit de la Genèse nous dit exactement ce qu'il en est et ce qu'il faut éviter. Éviter de projeter nos images d'un Dieu archaïque, bon, plus ou moins archaïque, et puis on a d'autres images maintenant sur Dieu, en fait, parce que Dieu est le tout autre, et il est avant tout le Dieu qui nous aime et qui nous offre ce monde et qui nous demande d'être libres et responsables dans ce monde. Et c'est quelque chose, là, c'est une grande responsabilité, en effet. Et puis, après, et ça c'est également assez cocasse en réalité, c'est quand l'homme et la quand Dieu arrivent dans le jardin, le soir venu. Donc, on est au moment entre chien et loup, pourtant, ils le savent, ils sont nus et ils se cachent de Dieu. Déjà, c'est assez étonnant, ils se cachent de Dieu, se cacher de Dieu, comme si, et en effet, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Dieu est là, non pas pour les punir, mais pour les aimer. Alors ils se cachent, ils se planquent. Ils pensent que c'est un Dieu qui est terrifiant. Et en réalité, je pense personnellement que la faute principale d'Adam et Ève, elle est là. C'est au moment où ils se planquent, et encore plus au moment où ils n'assument pas. Parce que c'est pas bien joli, tout cela. Vous savez, Dieu demande à l'homme... Qu'est-ce qu'il, pourquoi, comment il sait qu'il est nu? Il lui dit, tu as bien mangé du fruit. Oui, j'en ai mangé, mais ce n'est pas moi, c'est elle. Alors, il y a Philippe Guluc, le dessinateur, qui a dit qu'il, dans un dessin, lui dit, il le traite de rapporteur. Alors, ça me fait rire, parce que c'est vraiment un terme d'enfant. Mais l'attitude de l'homme est complètement infantile, et celle de la femme aussi, puisqu'elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Alors, vous savez, peut-être que ça, c'est un des péchés fondamentaux, ne pas assumer. Ne pas se présenter tel qu'on est devant Dieu et devant les hommes. Parce que oui, Dieu le sait, nous sommes faillibles, nous avons des faiblesses, nous pouvons commettre de nombreuses fautes. Mais à mon avis, ce qui est essentiel si on veut vivre et avancer, c'est les assumer. C'est dire oui, j'ai fait ça, oui, j'ai mangé du fruit, et oui, je me retrouve complètement nu devant toi. Mais grâce à ton amour, eh bien, je peux, à mon avis, affronter le monde. Et peut-être que cette lecture sur le signe de l'humour, où finalement on voit l'autodérision, ou la dérision complète par rapport à cet homme, cette femme, et même par rapport au serpent, parce qu'il n'est pas très glorieux non plus, eh bien, nous permettre de lire autrement, de voir peut-être quel est le péché qui se tapit là, au cœur de ce récit. Le péché, c'est peut-être pas d'avoir mangé le fruit, mais n'est-il pas d'avoir pas compris que Dieu est un Dieu d'amour et ne pas être capable d'assumer nos fautes devant lui et devant les hommes. Peut-être, je suis même persuadée que le péché est bien plus à chercher là. Alors, cette lecture aussi nous permet de voir, de trouver autre chose, de trouver des leçons de vie qui sont tout à fait actuelles. Ainsi, Ignatius, sous le signe de l'ironie, nous permet de déceler quelque chose qui nous permet aujourd'hui encore de comprendre que ce texte lointain peut nous parler et nous dire quelque chose d'essentiel. Ainsi aussi, et je pense que c'est important, dès le début de la Bible, l'homme se moque de lui-même. Il appuie là où ça fait mal. En réalité, celui qui écrit raille notre incapacité à nous assumer, qui existe encore, notre aveuglement qui nous empêche de comprendre les autres, d'aller vers eux, de comprendre l'amour de Dieu. Et si finalement cette autodérision, cette ironie, cette sorte d'humour n'était pas l'arme indispensable pour affronter aujourd'hui encore le monde, notre monde? Parce que nous ne sommes plus dans le jardin. Une fois l'homme expulsé du jardin, envoyé dans le monde, eh bien l'homme a besoin de cet humour. Et si nous perdons notre capacité à rire ou à sourire, eh bien, nous ne vivons plus. Alors, oui, si nous perdons cette capacité, le fanatisme a gagné. Car tous les mondes qu'ils souhaitent construire, dans ces mondes-là, il n'y a aucune place pour cela. Pas même la place pour un sourire. Et je terminerai avec cette phrase de l'apôtre Paul qui clôt son 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens, phrase si connue. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. J'y ajouterai, après tout, il n'y a qu'une petite lettre, bon, en tout cas au niveau du son, en français de différence, l'humour. Ce sont, nous dit-on, depuis des siècles, des vertus théologales. Mais ça n'a rien de vertu. La foi, l'espérance et l'amour et l'humour, ce sont des dons. C'est ce que Dieu nous donne, nous offre pour traverser le monde, pour continuer à vivre et pour construire ce monde qu'il désire tant et que nous sommes si incapables à construire. Alors, notre arme, nos armes, c'est notre capacité, justement, à croire, à aimer, à sourire, malgré tout et contre tout.